Bonjour, chères sœurs et frères du monde francophone. Je vous envoie mes fraternelles salutations à vous tous et vous souhaite une joyeuse fête et célébration de la fête de la Pentecôte de l'année 2014. Encore quelques-unes à célébrer et nous la ferons personnellement avec le Christ, chers amis. Bon, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce parallèle magnifique entre la Pentecôte de l'Ancienne Alliance et celle de la Nouvelle Alliance, et de voir que les lois que l'Éternel nous a révélées sont les mêmes, seulement que lui, il a magnifié sa loi. Donc, nous devons tenir présent ce concept merveilleux que l'Éternel nous a révélé au sujet de cette fête. Vous savez que le jour où l'Éternel a célébré l'Ancienne Alliance dans le désert, depuis le mont Sinaï où il avait parlé à toute l'assemblée d'Israël, c'était le jour de la Pentecôte. Je ne vais pas dépenser trop de temps à vous démontrer ça parce qu'il y a de la littérature dans l'Église qui donne les preuves nécessaires et suffisantes et nécessaires, bien sûr, pour savoir qu'on vous dit la vérité. Par exemple, vous pouvez vous rapporter, s'il vous plaît, au chapitre 19 du livre de l'Exode pour entrer en matière, pour savoir qu'il y a un parallèle merveilleux entre cette fête quand elle a été célébrée avec la présence même des dieux sur le mont Sinaï, et celle que nous célébrons aujourd'hui comme une commémoration de la naissance de l'Église, de l'Assemblée, de la congrégation de la Nouvelle Alliance. Voyons donc chapitre 19 du livre de l'Exode. Comme je vous ai dit, je ne investirai trop de temps à vous donner tous les détails pour démontrer que c'était le jour de la Pentecôte où notre Dieu, l'Éternel, c'était le Christ avant son incarnation, qui était la voix des dieux et qui continue d'être la voix des dieux quand il est descendu sur les monts pour prononcer ses commandements qui étaient le texte de l'alliance qu'il allait célébrer, une alliance de mariage entre Israël et lui. Comme le mari, si vous lisez dans Ésaïe, chapitre 54, verset 5, chers sœurs et frères, reportez-vous là-bas, s'il vous plaît, Ésaïe, chapitre 54, verset 5. Il dit, « Car ton Créateur est ton époux. » Voilà, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Voilà, c'est l'époux. C'était une alliance de mariage avec l'Israël de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Et nous savons que nous sommes aujourd'hui l'Israël des dieux, un Israël spirituel et aussi composé des descendants physiques que Dieu a préservés comme un reste des tribus, des descendants d'Abraham, Isaac et des 12 tribus d'Israël. Commençons à lire, chers sœurs et frères, au chapitre 19 de l'Exode, le troisième mois, je commence au verset 1, le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là. Ce jour-là, ça veut dire le premier jour du troisième mois. Donc, nous approchons le chiffre de 50 jours à partir du moment où les enfants d'Israël devaient compter d'après les instructions divines les 50 jours entre la récolte des orges et la récolte du blé qui représente le peuple de Dieu, l'épouse du Christ. Les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, c'est intéressant qu'il dit qu'il vous a porté sur des ailes d'aigle. Il va faire la même chose avec son Église qu'il va juger digne d'échapper à la grande tribulation. Il va la racheter encore une fois. Il va l'amener vers le lieu du refuge de sécurité sur des ailes d'aigle. C'est merveilleux. Le peuple était sorti à pied. Et puis, sans doute, il y aura encore beaucoup de parallèles que Dieu aime utiliser entre le passé et les événements futurs. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, alors quelle est l'alliance? Laissons que la Bible s'interprète d'elle-même. En quoi consiste cette alliance, ce traité et ce document de mariage? Mes chers sœurs et frères, nous allons voir au chapitre 4 du Deutéronome en laissant la Bible s'interpréter d'elle-même. Chapitre 4, verset 13 du livre du Deutéronome. Nous trouvons cette écriture qui nous enseigne, nous explique quelle est l'alliance pour que nous comprenions clairement qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Voilà, l'alliance, elle est comprise dans les 10 commandements. Elle a été écrite dans l'ancienne alliance sur des tables de pierre. Et nous allons voir aujourd'hui que cette nouvelle alliance sont les mêmes lois qui ont été magnifiées par le Christ et qui sont écrites dans l'esprit et au-dedans du cœur de ceux qui seront l'épouse du Christ, dont le mariage va se célébrer d'ici peu. Voilà, ça c'est la cérémonie, chers amis, qui, d'après la Bible, se célébrait avant que le mariage ne soit consommé. Donc, revenons au chapitre 19 de l'Exode et continuons d'après ce que nous enseigne la parole ici des dieux. Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, ça veut dire les 10 commandements. Nous venons de les voir expliquer, chapitre 4, verset 13 du Deutéronome. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Je vous prendrai comme mon épouse. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui à nous autres, chers sœurs, frères, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et nous voyons aujourd'hui l'accomplissement de ces paroles. Nous nous préparons maintenant pour être un royaume des rois et des sacrificateurs et de régner sur la terre avec le Christ pour 1000 ans à son retour, comme son épouse qui va être l'aide au chef suprême, Jésus-Christ. Quoique le chef suprême, bien sûr, est le Père, mais il sera le chef, la tête de son Église pendant les 1000 ans de royaume sur la terre. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, je ne veux pas tout lire maintenant, mais on va voir que c'est peut-être le jour, c'était l'événement, c'était le 8 de Chivan de l'année 1447 avant Jésus-Christ. C'était l'année de l'Exode. Vous pouvez vérifier ça. Il y a de la littérature suffisante pour prouver que donc je n'ai pas besoin de passer trop de temps à vous démontrer ces détails. Mais le jour de la Pentecôte de l'Ancienne Alliance, quand le peuple était sorti d'Égypte, finalement traversé, il a traversé la mer Rouge, ils ont été baptisés. Voilà les figures merveilleuses. Et maintenant, ils s'approchent du temps du mont pour recevoir les lois des dieux, comme nous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, le peuple a été baptisé en Moïse, qui était le médiateur de l'ancienne alliance. Donc les parallèles sont magnifiques, il y a tellement de choses à dire, chers sœurs et frères, mais continuons maintenant. Et comment Dieu leur a dit d'être prêts. Et plusieurs jours s'étaient écoulés, et bien sûr, le jour de la Pentecôte, le jour 50 d'après les comptes que Dieu avait ordonné, est arrivé cette année-là, de l'année 1447, le 8 du mois de Chivan. C'est le jour où Dieu descendu sur les monts, sur la montagne. Le peuple a dû se préparer d'après les messages que Dieu a envoyés avec Moïse. Et puis il leur a dit d'être prêt pour le troisième jour après un certain nombre de jours pour pouvoir compter les 8 de Chivan de l'année 1447 avant Jésus-Christ. C'est peut-être l'événement le plus dramatique de l'histoire humaine jusqu'à présent qui sera vraiment surpassé par le retour du Christ, par les sons de la septième trompette qui va se passer, va arriver d'ici peu, chers amis. Nous les sentons venir et s'approcher. Donc, au verset 16 du chapitre 19 de l'Exode, le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Dieu voulait causer une impression profonde chez son peuple pour qu'il connaisse la grandeur et l'importance et la profondeur de cet événement qui est vraiment plein de signification pour nous, qui faisons maintenant partie de la nouvelle alliance. Étant dans les camps, fut saisi, le peuple fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre des dieux. Voilà, mes amis, voilà quelle scène merveilleuse. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Écoutez, mes amis, je crois qu'il n'y a jamais eu un événement pareil depuis. Ce n'est qu'au retour du Christ, nous verrons quelque chose encore de plus spectaculaire, parce que le Christ va faire trembler, non pas seulement la terre, comme ici, mais le ciel, comme nous allons le voir, mes amis. Donc, le son de la trompette retentissait de plus en plus, fortement. Je lis chapitre 19, verset 19. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur les monts Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse. Sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. » Que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Voilà pour nous, mes amis. Nous devons adorer dans la beauté de la sainteté l'Éternel, la pureté des cœurs et d'esprit, comme nous essayerons de l'expliquer encore. Moïse dit à l'Éternel, c'est le verset 23, « Le peuple ne pourra pas monter sur les monts Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron, mais que le sacrificateur et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Alors commençons, et puis nous allons voir un petit peu le parallèle Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, nous allons rentrer dans ce sujet dans un moment, mais nous allons voir le parallèle que l'apôtre Paul établit entre cette nouvelle alliance et la proclamation des 10 commandements, de l'alliance ancienne avec le peuple et maintenant de la nouvelle alliance. En quoi ça consiste la nouvelle alliance? Il faut nous rappeler que Dieu a écrit cette alliance sur des tables de pierre. C'était la première. Regardons-le confirmer au chapitre 32 de l'Exode. Chapitre 32. De l'Exode. L'Éternel parla à Moïse et dit, je vais trouver cette écriture dans un instant, chers sœurs et frères. Patientez avec moi, je l'ai marqué ici quelque part. Au chapitre 31, verset 18 de l'Exode. Chapitre 31, verset 18. Et nous allons trouver cette écriture pour clarifier tout ce que j'essaie de vous transmettre. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage. Table de pierre écrite du doigt des dieux. Je répète, chapitre 31, verset 18 de l'Exode. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt des dieux. Et puis, regardons comment Moïse les a placées dans les saints des saints, au-dedans de l'arche de l'Alliance. Regardons chapitre 40, verset 20 de l'Exode, un peu plus loin. Et nous allons voir les parallèles entre cette alliance et celle que Dieu est en train de traiter avec nous maintenant, chers sœurs et frères. Chapitre 40, c'est quand le tabernacle a été complètement fini et puis toutes les instructions sont données à Moïse, ce qu'il doit faire. Et au chapitre 40 et verset 20, il dit, il prit le témoignage, c'est Moïse. Il prit les témoignages, nous venons de voir les témoignages, c'est les 10 commandements. C'est chapitre 31, verset 18. Je répète, chers amis, quiconque, chapitre 31 et verset 18, nous venons de les lire en lisant la Bible s'interpréter d'elle-même. Il dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt des dieux. Donc, nous avons déjà vu, d'après Deutéronome 4, 13, ces tables, elles sont l'alliance. Les 10 commandements, c'est l'alliance. C'est aussi le témoignage de cette alliance. Et où est-ce qu'elle est placée? Nous voyons au chapitre 40, verset 20 de l'Exode. Je sais que vous connaissez ces choses-là, mais c'est intéressant de revoir les parallèles magnifiques entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Chapitre 40, verset 20 de l'Exode, Moïse, entre parenthèses, il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche, c'est-à-dire. C'était le symbole du trône des dieux, où étaient les deux chérubins. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, et puis il dit, il apporta l'arche dans le tabernacle, verset 21, et il mit le voile. Il mit le voile de séparation et il encouvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, c'était dans les saints des saints où l'arche a été placée dans le tabernacle et au-dedans de l'arche était le témoignage, les deux tables de l'alliance, les 10 commandements. Ils étaient dedans. Et puis, il a mis les propitiatoires, c'est-à-dire que c'est les fondements du gouvernement des dieux, l'essence du gouvernement des dieux est dans ces 10 commandements, chères sœurs et frères. Et que c'est l'alliance que nous avons traitée et que le Christ a traitée avec nous, nous allons les voir. Et que dans la nouvelle alliance, notre corps est le tabernacle. Dans l'ancienne alliance, Dieu était avec le peuple. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu est dans le peuple. Il demeure au-dedans de nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et où est-ce que cette alliance est écrite maintenant? Nous allons le voir maintenant au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, s'il vous plaît, chers sœurs et frères. Chapitre 10, nous allons voir le parallèle magnifique pour que nous voyions la majesté de ce que ce jour représente et la grandeur de l'appel que Dieu nous fait, chers amis, à être fidèles, à écouter sa voix. Chapitre 10, verset 16 des Hébreux. Voici l'alliance que j'ai faite avec eux. Souvenez-vous, l'alliance et les 10 commandements. Nous avons démontré, la Bible s'interprète d'elle-même. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Où est-ce que Moïse a mis les lois? Dans l'arche de l'alliance. Elle l'a mis dans les saints des saints du tabernacle. Et voilà que dans la nouvelle alliance, Dieu est avec nous. Il vient demeurer au-dedans de nous. Et cette alliance, ces 10 commandements sont mis au-dedans de notre cœur, comme si c'était l'arche de la présence des dieux au-dedans de nous. C'est important de comprendre la grandeur de ce que ce jour représente, chers amis. Voici, chapitre 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Voilà, elles ont été mises dans l'arche de l'alliance. Et puis le cœur est au-dedans de notre corps, chers amis. Et je les écrirai dans leur esprit. Voilà, dans l'esprit et dans le cœur, pour que nos émotions soient assujetties, pour qu'elles soient soumises à Dieu. Tout ce qui sort du cœur, c'est ça, que ça tourne d'être une fontaine polluée à des eaux d'eau vive, purifiées par l'Esprit de Dieu, par le repentir, par le sang du Christ, et que ça coule comme de l'eau vivante, parce qu'elle vient par les canaux écrits en nos cœurs, des lois des dieux qu'on obéit du fond du cœur. Voilà comment le Christ a magnifié cette loi. Voici l'alliance que j'ai faite avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Souvenez que le soir où le Christ a été délivré, quand il a célébré la cérémonie de la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il a dit? Voyons Matthieu 26, 26, et nous voyons le parallèle absolument magnifique que Dieu nous montre. Chapitre 26 de Matthieu, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. » C'est comme ça qu'il oublie nos péchés, parce que ce sang couvre nos péchés quand on reçoit le repentir de la part de Dieu. Et on les met en pratique et on change notre manière de vivre. Alors le Christ, il nous purifie le cœur pour que ces lois puissent être écrites au dedans du cœur. Voilà, chers amis, cette purification que Moïse a fait avec du sang de veau et de brebis. Mais maintenant, on a purifié notre corps, notre temple avec le sang précieux du Christ. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. On aura l'occasion, le privilège, la bénédiction, la gloire de célébrer encore la Pâque avec le Christ en personne sur sa table, dans les royaumes de notre Père. Alors voilà, et puis l'apôtre Paul nous rappelle dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, Et la grandeur de cette nouvelle alliance. Chapitre 12 des épîtres, de l'épître aux Hébreux. Regardons, chers amis, au verset 18. Hébreux 12, 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Nous venons de le lire. C'était l'ancienne alliance. Alors il nous dit, vous ne vous êtes pas approchés de cette montagne-là, de cette montagne physique, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur parle, qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Mais si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés. Voilà le message pour nos chers amis aujourd'hui, en ce jour très spécialement. Mais vous, vous êtes approchés, verset 22, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Voilà, nous avons l'accès par le chemin que le Christ nous a ouvert à la présence même de notre Père. Dans la salle de son trône, sur la mer de glace, où le mariage aura lieu d'ici peu, mais nous pouvons déjà nous approcher de notre Père, de Jésus-Christ, par cette voie qu'il nous a ouverte, d'après ce que l'apôtre Paul lui-même nous a décrit dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Et puis il dit, vous vous êtes approchés, verset 22, chapitre 12, verset 22, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous. Voilà, nos noms sont déjà écrits dans le livre de vie, dans la présence des dieux, ceux qui sont morts, leur esprit est déjà là. En attendant les sons de la septième trompette, des esprits, des justes parvenus à la perfection. Voilà ceux qui ont vaincu et qui sont morts, qui sont déjà partis, mais dont leur esprit attend la naissance de cette nation dans un seul jour où la nouvelle Jérusalem accouchera ses enfants d'un seul coup, au son de la trompette, chers amis. Mais les esprits des justes sont déjà écrits là-haut dans le livre de vie, de même que les noms de ceux qui vont endurer jusqu'à la fin, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà, chers amis. Donc, nous allons revoir avec cette introduction un petit peu longue, mais très importante pour que nous saisissions la grandeur de ce que nous célébrons aujourd'hui, de la commémoration que nous fêtons en célébrant cette fête de la Pentecôte, de ce pas merveilleux dans les plans des dieux qu'il avait conçus avant même le fondement, la fondation du monde. Nous allons donc revenir au chapitre 20 de l'Exode. Et nous allons essayer de voir quelques aspects. Il y en a beaucoup d'aspects. Chaque commandement est comme un phare de lumière qui allume tout autour. Et nous ne pouvons pas expliquer tous les détails, mais nous allons voir des choses peut-être qui vont nous servir pour corriger notre route vers le royaume des dieux, parce que les 10 commandements sont le chemin qui mène à la vie éternelle, à ceux qui ont été appelés d'après le dessein des dieux. Souvenez-vous, le Christ, quand le jeune homme lui a demandé que bien dois-je faire pour hériter la vie éternelle, lui a dit, si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Ça veut dire, c'est la route étroite, parce que le Christ a dit, la route ou le chemin qui mène à la vie est étroit. Et voilà, les deux choses s'expliquent l'une à l'autre, et les 10 commandements sont cette chemin qu'on doit suivre. Et la loi des dieux est appelée un chemin. C'est la première façon dont elle est appelée dans le psaume 119. Vous le savez bien. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, parce qu'ils sont déjà écrits là-dedans, et qui ne commettent point d'iniquité, et qui marchent dans ses voies. Voilà. Donc, nous allons nous examiner aujourd'hui en revoyant un petit peu ces commandements, cette alliance que Dieu nous a traité avec nous pour donc prendre au sérieux ce que nous célébrons aujourd'hui. Chapitre 20 de l'Exode, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. » Nous savons par le livre d'Ézéchiel, ce qui n'est pas évident, ailleurs, au chapitre 20 d'Ézéchiel, nous savons que le peuple pratiquait l'idolâtrie en Égypte. Le peuple ne gardait pas le sabbat en Égypte. Il a fallu que Dieu rachète ce peuple par la main de Moïse et qu'il l'amène au désert et qu'il apprenne à garder le sabbat. C'est au chapitre 16 de l'Exode, avant qu'il n'arrive au mont Sinaï. Il fallait qu'ils aient déjà commencer à le garder d'après toutes les instructions dont vous vous souvenez bien, qui sont écrites au chapitre 16. Dieu leur a appris comment se rappeler du sabbat qu'il avait déjà donné pour l'homme depuis la création de l'homme. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Souvenez-vous que nous autres aussi, chers sœurs et frères, nous étions dans la maison de servitude. Il y en a parmi nous qui étions dans l'idolâtrie comme le peuple. Nous ne connaissions pas le sabbat, nous ne le pratiquions pas. Nous étions des esclaves du péché comme le Christ l'explique clairement au chapitre 8 de l'Évangile des Jean. Ceux qui pratiquent le péché sont esclaves du péché. On ne pouvait pas s'en sortir, on était séduits. On était trompés, on s'était trompé de chemin, chers amis, et nous ne le savions pas ce que Dieu nous a appelés. Il nous a rachetés par le pouvoir de son esprit. Et puis, nous avons été libérés de la maison des servitudes où nous vivions auparavant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous savez que le Dieu d'Égypte, les idoles qu'il adorait, derrière ces idoles, c'était des démons qui étaient. L'apôtre Paul le décrit. D'autres dieux, c'est adorer ou avoir contact avec les démons. C'est l'une de beaucoup d'autres applications. Nous allons voir pour nous examiner, parce que nous sommes aujourd'hui, chers amis, sous une influence énorme de la part du monde des esprits, le spiritisme, les films de Harry Potter, les films de Le Crépuscule, et puis le film, continuellement, il y a des films qui ont à voir avec la sorcellerie, avec des démons et des gens qui se soumettent à ces dieux et qui vont contaminer leur corps, comme nous allons les voir. Donc, voilà une façon d'adorer d'autres dieux. Et nous allons voir la preuve au chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, chers sœurs et frères. Chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, nous allons voir comment Dieu lui-même nous explique. Et au chapitre 10 et verset 18 de la première épître aux Corinthiens, « Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ?» Aucune idole est quelque chose, nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Voilà ce que les Égyptiens faisaient, et c'est qu'il y en a beaucoup parmi nous que nous faisions dans notre ignorance, dans le passé. Il est dit nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » Voilà, quand il dit « Vous n'aurez pas d'autres dieux devant moi », il fait référence, bien sûr, aux idoles, à des démons que maintenant pénètre l'ambiance qui, moi-même, fait de dégâts parmi des membres de l'Église, chers amis, qui regardent ces films, qui se contaminent, qui s'essouillent avec des films qu'ils ne devraient pas voir et qui appellent la présence des démons dans leur vie, chers amis. On a beaucoup de ça et voilà une des façons d'appliquer le premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire tu n'auras pas de contact avec des démons. Il y a beaucoup d'autres applications de ces commandements, mais je voulais expliquer cet aspect-là aujourd'hui parce qu'on est vraiment inondé d'influences démoniaques dans les films, dans la télévision, dans les livres, partout, chers amis. Et il y en a qui se sont déjà souillés, même parmi nous. Donc c'est un avertissement pour tous, chers sœurs, amis, chers amis. Voyons par exemple au chapitre 19 du Lévitique, comment Dieu nous avertit au sujet de ces pratiques que maintenant le monde de plus en plus, il s'enfonce dans ce monde ténébreux. Ils ne savent pas que c'est la mort qui les attend parce que le diable est un assassin dès le début. Il ne veut que détruire l'être humain. Donc, au verset chapitre 19 du Lévitique, verset 26, « Vous ne mangerez rien avec du sang, vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. » Voilà, nous avons les pronostics dans la parole des dieux, vous le savez bien, nous connaissons ce qui arrivera dans les prochaines années, dans 1000 ans, dans 1100 ans et au-delà, dans les nouveaux ciels et la nouvelle terre, chers amis, vers l'éternité. Nous avons une vision magnifique du futur, illuminée, révélée par Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aller consulter les esprits menteurs. Et lisons maintenant chapitre 19, verset 30 du Lévitique. « Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne le recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Souvenez-vous que c'est une alliance. C'est un mariage qu'on célèbre avec le Christ. Et c'est avec... on ne peut pas avoir un autre Seigneur. On ne peut pas avoir un autre Dieu, chers sœurs et frères. Donc, si quelqu'un se tourne vers ses esprits, il va souiller son temple. Il va être infidèle. C'est la fornication spirituelle. Il va se souiller son esprit, chers amis. Il va se soumettre à être persécuté par des démons et même possédé, chers amis. C'est ça le but du diable. Je répète, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Chapitre 19, verset 31. Ni vers les devins. Ne le recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Voilà, ça contamine le temple où l'esprit, où les lois des dieux sont écrites qui nous disent « N'ayez pas d'autre dieu devant moi ». Dans l'esprit et dans le cœur. Ne le recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Puis ça continue au chapitre 20 du Lévitique et au verset 6, vous pouvez lire, « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, voilà, c'est un acte d'infidélité au Christ d'aller chercher les contacts avec des démons. » En lisant ces livres, en voyant ces films, on s'expose à des choses. La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal, chers amis. On ne doit pas rester assis en regardant ces spectacles qui ont une séduction ténébreuse, parce que le monde ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est la magie du diable pour tromper, pour fasciner et pour détruire. Nous devons bien savoir ces choses-là, chers sœurs et frères. Si quelqu'un s'adresse aux morts, chapitre 20, verset 6, et aux esprits pour ces prostituées à eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Voilà, cette loi est bien valable pour nous aujourd'hui. Et au verset 27, le dernier verset du chapitre 20, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis des morts. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Donc, avec Dieu, on ne peut pas, chers sœurs et frères, jouer, n'est-ce pas, avec cette alliance sacrée qui a coûté le sang du Christ, la nouvelle alliance. Donc, c'est très grave devant Dieu d'aller approcher des esprits impurs. Pour avoir du contact avec eux, ils vont nous rendre impurs et notre temple sera souillé pour la présence des dieux. Nous pourrons même forcer Dieu de sortir de nous. C'est très dangereux, chers sœurs et frères. Donc, c'est un aspect de ce premier commandement que nous vivons aujourd'hui entourés, inondés des influences qui veulent nous mener dans cette direction. Donc, devons-nous être vraiment de veiller attentivement. Voyons un autre aspect. Vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. Comment peut-on briser ce premier commandement? Regardons le chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu. Chapitre 10, s'il vous plaît. Évangile de Matthieu, chapitre 10. Nous allons voir des instructions précises du Christ. Comment pouvons-nous briser le premier commandement en ayant d'autres dieux, en les mettant devant notre Dieu qui nous a rachetés avec son sang et qui a traité cette alliance de mariage d'être voulant être un avec nous et de demeurer au-dedans de nous et de nous faire son épouse pour être un seul esprit avec lui. C'est la grandeur de cette alliance. Au chapitre 10 de Matthieu et verset 34, nous allons lire des aspects que, comme je vous dis, on ne peut pas tout analyser, mais quelques aspects qui vont nous aider à être en état de veille sur notre temple, chers sœurs et frères. Chapitre 10 de Matthieu, verset 34. Matthieu 10, 34. Voici des avertissements que le Christ nous fait. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Nous savons que Dieu, parfois, il n'appelle qu'un seul membre d'une famille. Et puis, ce n'est pas que Dieu veut que nous causions de façon charnelle des divisions. Il veut que nous soyons une lumière et que nous ne répondions pas d'après la chair. Il nous montre qu'il faut retourner le bien pour le mal, mais le fait d'appeler quelqu'un, vous savez que le diable ne l'aime pas et les ennemis seront ceux de notre propre maison dans certains cas. Et puis il dit la belle-fille et sa mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Voilà une façon dont on peut briser le premier commandement, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. Comme le cri que nous venons de le lire, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Chapitre 20, verset 3. Donc, il nous donne ici une explication où il nous montre comment peut-on. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Comment ça peut être une façon de briser le premier commandement, chers sœurs et frères? Laissons le Christ nous expliquer lui-même. Je ne veux pas aller chez toutes les Écritures, mais c'est des Écritures que vous connaissez bien. Le Christ a dit à maintes reprises, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Vous le savez, c'est au chapitre 14, verset 15 de l'Évangile des Jean. Il a répété ses paroles plusieurs fois dans la dernière Pâque qu'il a célébrée avec ses disciples en les renseignant des paroles éternelles. Chapitre 14, verset 15 de l'Évangile des Jean, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit qui vient écrire ses lois. » en notre esprit et qu'il mette au-dedans de notre cœur. Au verset 21 du même chapitre 14, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Voilà. Et puis au chapitre 15, verset 10, 15, 10 de Jean, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Et puis l'apôtre Jean, vous le savez, dans sa première épître, il décrit qu'est-ce que l'amour. Donc c'est important de comprendre ça pour savoir qu'est-ce que le Christ a voulu dire quand il dit « Si vous aimez votre père, votre mère plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. » Donc c'est important de comprendre ça. Au chapitre 3 de la première épître de Jean, au verset 5, où nous trouvons cette déclaration et il dit « Je vous le savais, je suis apparu » et chapitre 3 de la première épître de Jean, chapitre 5, excusez-moi, nous allons voir la définition de l'amour au verset 3. Première épître de Jean, chapitre 5 et verset 3. Il dit, je commence à partir du verset 2, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour des dieux consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Alors, avec cette prémisse expliquée, nous allons voir pourquoi on peut aimer quelqu'un comme son père ou sa mère ou son épouse ou son enfant plus que Dieu, on va transgresser la loi de Dieu. C'est très simple. Quand nous, par l'amour qu'on a pour notre père ou le respect pour la mère, on est prêt à briser la loi de Dieu. Parce que Dieu nous commande d'aimer nos pères, nos parents. Dieu nous commande, il y a un commandement, le cinquième, vous le savez bien. Mais au moment où nous aimons notre père au point de briser une loi de Dieu pour plaire à notre père, ou plaire à notre épouse, ou plaire à notre enfant, de briser le sabbat, par exemple, ou de ne pas aller à la fête pour aller plaire à quelqu'un que nous aimons, à partir de ce moment-là, on est en train de commettre l'idolâtrie. On est en train de briser le premier commandement. C'est un amour qui va au-delà de ce que Dieu nous a ordonné. On doit obéir Dieu avant les hommes. Et moi, j'ai connu et je connais des personnes, par exemple, qui ne viennent pas à la fête, par exemple, à l'heure où Dieu, le jour où Dieu a établi. Cette année qui vient de passer, ça a commencé un mercredi soir, vous le savez bien. Il y avait pas mal de gens dans plusieurs congrégations qui n'étaient pas là. Ils n'étaient pas présents parce qu'ils avaient peur de leur patron qu'il allait les mettre à la porte. À ce moment-là, vous aimez votre travail, vous n'avez plus de respect pour votre patron que pour les dieux qui s'assoient sur les trônes de l'univers. Donc Dieu n'est pas réel pour nous, chers amis. Et quand on a peur de causer un problème à notre papa ou à notre maman ou à notre épouse, et on ne va pas à la fête ou on ne va pas à l'assemblée quand Dieu nous ordonne d'y être, on est en train de briser le premier commandement. Voilà, c'est comme ça qu'on l'entend. Dieu veut que nous aimions nos parents, que nous aimions. Il commande aux maris d'aimer leur épouse. Mais au moment où l'homme aime tellement son épouse qu'il va briser les lois de Dieu pour plaire à un être humain, il est en train de briser le premier commandement. C'est très important de comprendre ça. C'est exactement ce que le Christ il veut dire quand il nous annonce ses paroles. Et au chapitre, j'étais en train de lire chapitre 10 de Matthieu. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Voilà, c'est quand on brise la loi de Dieu pour plaire à un être humain, que ce soit notre père ou notre mère ou notre épouse ou notre enfant. Plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est-à-dire on doit être prêt, même à mourir, chers sœurs et frères, pour suivre celui qui est mort pour nous et qui nous promet la vie éternelle. Il faut être prêt à tout. Si on veut sauver notre vie, voilà notre Dieu, on va la perdre. Mais si on perd notre vie pour l'amour du Christ, on va la gagner. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà, on ne peut permettre que quoi que ce soit s'interpose entre nous et l'obéissance à notre Dieu qui nous a rachetés avec son sang, qui veut nous donner la vie éternelle et qui veut faire de nous son épouse fidèle, soumise à lui. C'est pourquoi cette soumission à la nouvelle alliance, c'est la façon dont maintenant nous démontrons au Christ que nous nous soumettons à sa loi. Et il saura, en voyant que nous sommes fidèles à ce qui est peu, qu'il n'y aura pas un autre diable dans les royaumes des dieux. Si nous, on n'est pas fidèles un peu à ce qui est petit, on est en train de démontrer à Dieu qu'on peut bien un jour décider de ne pas être fidèle en ce qui est grand dans les royaumes. Et il ne permettra quelqu'un qui a cette conduite d'entrer dans son royaume. Il est en train de nous tester maintenant pour savoir si nous allons être une épouse fidèle pour l'éternité. Et c'est en étant fidèle maintenant à ses lois et en obéissant tous ses principes, en ne permettant qu'aucun être humain, parce qu'il n'y a pas de pouvoir dans l'univers qui peut nous empêcher d'obéir Dieu une fois qu'on a décidé de l'obéir. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Donc on n'a pas d'excuse. Quelqu'un peut dire donc, non, c'est trop difficile, écoutez, je viens de trouver mon emploi, ou bien il s'est marié avec quelqu'un qui n'est pas dans l'église, il ne veut pas détruire son mariage, donc il va briser la loi des dieux pour plaire à un être humain. On est déjà en train de démontrer au Christ qu'on n'est pas digne de lui. Voilà, cette histoire, c'est assez sérieux, chers sœurs et frères. Donc voyons chapitre 8 des Romains. Je vous dis que nous, on n'a pas d'excuse. Une fois qu'on a décidé d'obéir Dieu, une fois qu'on a traité cette alliance avec lui, et de cette alliance d'obéir ses commandements, il n'y a pas de pouvoir dans l'univers qui peut nous empêcher de le faire. Dieu ouvrira les portes nécessaires, où il nous donnera la force pour mourir en étant fidèle à son alliance et d'avoir la vie éternelle. Voilà, chers sœurs et frères, est-ce qu'il va nous tester encore d'ici peu, comme nous allons le voir dans un moment. Donc, au chapitre 8 des Romains, il est bien clair. Lisons chapitre 8, verset 30. Romains, chapitre 8, verset 30. On est en train d'expliquer seulement le premier commandement, mais il y a bien des aspects que nous devons vraiment garder dans l'esprit et veiller, chers sœurs et frères, parce que le temps est court. Chapitre 8 et verset 30 de Romains. Nous allons voir, comme je vous le dis, il n'y a pas d'excuse. Une fois qu'on a traité une alliance avec Dieu, il ne permettra qu'il n'y ait aucune circonstance qui nous empêche d'être fidèles. Voilà. Et puis, il promet ça dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Il n'y a pas de tentation qui sera trop forte pour nous. Il nous donnera l'issue pour que nous puissions nous en sortir. Voilà, chapitre. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus des dieux? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite des dieux. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Quel est l'amour de Christ? Nous venons de l'éprouver. C'est l'obéissance à ses commandements. Voilà, si nous disons que nous l'aimons et nous n'obéissons pas, où nous allons briser sa loi pour plaire à un être humain, que ce soit notre épouse ou notre père ou notre mère, nous mentons. Ce n'est pas vrai. Je vous l'ai démontré. Je crois que c'est clair à vos yeux. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. On nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, s'il faut mourir, Alors il faut mourir. Voilà, chers amis, c'est la seule façon dont on va entrer dans le royaume des dieux. Si on aime trop notre vie, on n'est pas digne d'y entrer. Ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ce sont des anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour des dieux. Voilà de l'obéissance à Dieu. Il n'y a pas de pouvoir dans l'univers. Et Dieu est le roi, le souverain de l'univers. Il ne permettra aucune force de nous forcer et de nous empêcher de l'obéir. Ne pourra nous séparer de l'amour des dieux manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, chers sœurs et frères, certains aspects du premier commandement et comment ça nous applique, ça s'applique à nous aujourd'hui. Regardons le suivant commandement. Nous irons au fur et à mesure que nous pouvons. Vous pourrez diviser ce sermon en deux pour le matin et pour le soir. Si vous voulez, chers sœurs et frères, c'est à vous de choisir. Mais voilà, il y a trop de choses à dire. Et voici, nous allons de nouveau à l'Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà, c'est écrit dans les 10 commandements. L'amour de Dieu, c'est lui obéir. Autrement, c'est la théorie, de la fausse théorie, chers sœurs et frères. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'amour. Voilà. C'est une loi assez simple. Alors, ce deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée. Il y en a parmi nous, je ne sais pas qui, moi peut-être, nous allons être testés dans ce commandement, comme les trois amis de Daniel l'ont été. Chers sœurs et frères, je vous le montre, vous le savez bien, chapitre 13, verset 13 de l'Apocalypse. Ça s'approche. Il y a des gens peut-être qui diraient, moi, ça fait longtemps que j'ai quitté les idoles. Je n'ai plus d'image dans ma maison. Mais Dieu va tester ceux qui ne considèrent pas d'échapper à la grande tribulation pour voir qu'est plus important pour eux sur leur vie physique ou l'obéissance à Dieu pour la vie éternelle, pour entrer dans la vie éternelle. Et c'est un test qui s'approche sur nous, chers sœurs et frères. Donc, il est important d'y réfléchir. Chapitre 13, verset 13. De l'Apocalypse, chapitre 13, verset 13. Elle opérait des grands prodiges, cette bête qui va se manifester, chers amis, jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Je viens de vous écrire un article là-dessus, j'espère que vous l'avez lu, chers sœurs et frères. Sur la terre à la vue des hommes. C'était sur la couverture de notre revue Le Monde de demain. Du feu tombant du ciel serez-vous séduits. Et ça, c'est pour nous, ça s'approche. Personne parmi nous ne sait s'il va échapper à cette épreuve ou non. Il n'y a que Dieu qui le sait. Donc, il faut être préparé. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et souvenez-vous que la dernière restauration des Roms s'appelle Babylone la Grande ou la Grande Babylone. Et c'est chez les Babyloniens, c'est dans l'Empire babylonien où les trois amis, les Juifs, et c'est les Juifs spirituels qui vont être testés encore avec une image. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, ça va s'appeler Babylone, la grande ou la grande Babylone, vous le savez bien, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui ne l'adoreraient pas, qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Ça s'approche. Et je vous dis une chose, chers sœurs et frères, pour que nous comprenions la grandeur et l'importance de ce commandement de Dieu. Ceux qui ayant, et je l'expliquais dans cet article, j'espère que vous allez le revoir, si quelqu'un est un élu, il a ses lois de Dieu écrites dans son cœur. Il ne peut pas être séduit. Il ne peut pas être séduit, chers sœurs et frères. Ils connaissent cette loi, comme les amis de Daniel étaient des juifs. Nous sommes des juifs spirituels qui avons ces lois écrites en notre esprit et qui sont écrites aussi en notre cœur, au-dedans de nous. Donc, chers sœurs et frères, voilà, cette Babylone la Grande va établir une image. Et ceux qui vont l'adorer, s'il y a quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu et il se penche, il s'incline vers cette image, alors en brisant le deuxième commandement, qui est le traité, c'est le pacte de mariage, le traité, l'alliance entre l'épouse et son Christ, celui qui l'a racheté avec son sang. Si on est infidèle et on brise ce commandement-là pendant les tests qui s'approchent, on ne sera pas dans les royaumes de Dieu parce qu'on n'a pas gardé ces commandements absolument nécessaires, comme le Christ l'a dit au jeune homme. Si tu veux entrer dans la vie, et c'est la vie éternelle, garde les commandements. Si quelqu'un brise le deuxième, en seul, on est coupable de tous parce qu'on l'a déjà brisé, l'alliance avec le Christ. C'est très sérieux, je vous le dis, parce que ça s'approche. On va le voir en Europe et en Amérique et partout, chers sœurs et frères. Donc, je vous prouve, je vous démontrerai que si quelqu'un brise ce commandement, le deuxième, et il adore l'image de la bête, il ne sera pas dans les royaumes de Dieu, il ne sera pas, il fera pas partie de l'épouse du Christ, du corps du Christ. Regardons la réponse et la preuve devant vos yeux au chapitre 20 et verset 4. Chapitre 20, verset 4. Et voici la vision des gens quand le royaume de Dieu commence, quand la vie éternelle va se manifester au monde entier, parmi les prêtres ou les sacrificateurs et les rois. Chapitre 20, verset 4, ici est la preuve que ceux qui auront brisé le deuxième commandement de Dieu, l'alliance qu'il a traitée avec nous, ils ne seront pas dans les royaumes de Dieu. Chapitre 20, verset 4. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Donc ils voient tous ceux qui ont vaincu depuis Abel jusqu'au dernier, racheté du Christ avant son retour. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Quel est le témoignage? Les 10 commandements. Ils n'ont pas adoré l'image parce qu'ils étaient fidèles à ce traité, à cette alliance qu'ils ont traitée avec le Christ qui était écrite dans leur cœur. De ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Nous savons que le témoignage à voir avec les 10 commandements. On l'a déjà démontré. Et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas, donc ils voient aussi assis sur les trônes, ceux qui n'avaient pas adoré la bête, donc ils étaient dans la grande tribulation, ils ont été soumis à cette épreuve et ils ont été fidèles. Et nous allons voir que seulement ceux qui ne l'ont pas adoré vont être là. Et puis je répète, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu. Alors, adorer la bête et son image, c'est briser le deuxième commandement, donc ils l'ont gardé. Ils n'avaient pas reçu la marque sur leur front et ni sur leurs mains. C'est le sabbat, c'est le signe des dieux. Ils ont été fidèles au sabbat. Donc, le diable va être très sûr que la loi établie par la bête, c'est une anti-loi contre Dieu. Il va falloir garder un autre jour, le dimanche, pas le sabbat, qui est le signe de l'épouse du Christ. Il faudra donc adorer des images qui vont contre la loi, qui est de déshonorer, c'est une façon de s'honorer grandement l'éternel Dieu avec sa gloire. d'alors adorer une image faite par un homme. Donc, je continue ici en décrivant ceux qui vont régner sur le monde. Ils voient les autres morts, excusez-moi, et je continue, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, ils sont assis sur ses trônes et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Donc, ils ont été fidèles au sabbat. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de pouvoir dans l'univers qui peut nous empêcher d'obéir à Dieu, même pas la mort. Voilà, chers sœurs et frères, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà les vainqueurs. Mais on ne voit aucun qui va venir s'asseoir là, qui ait adoré l'image ou qui ait brisé le sabbat. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs des dieux de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans parce qu'ils ont été fidèles à l'alliance, aux 10 commandements, à l'alliance traitée avec ce maître, l'époux qui a donné son sang pour son épouse. Et puis elle a été fidèle comme lui il a été fidèle. Voilà. On va faire. On a vu que 2 commandements maintenant, mais ça ne fait rien. C'est important, chers sœurs et frères, de revoir ces choses, spécialement ce jour-ci où nous célébrons le moment où ces commandements sont entrés en nos cœurs et ont été écrits en nos esprits. Nous allons faire une petite pause et si vous voulez, la deuxième partie, vous pouvez l'utiliser pour l'après-midi. C'est à vous de choisir, chères sœurs et frères. À bientôt.